Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Dieu est un Dieu juste. Il ne prend pas pour innocent celui qui est coupable. À ce propos, je voudrais lire deux textes avec vous pour introduire ce 17e enseignement sur le combat spirituel. Le premier texte, c'est dans Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Eh bien, il va falloir que nous comprenions ce soir la différence qu'il y a entre péché et iniquité et transgression. Parce que Dieu en parle. S'il en parle, c'est qu'il a des raisons très précises d'en parler. Si Dieu fait des déclarations d'une telle solennité, c'est que il avait en vue le sacrifice de son fils à la croix. Le péché a envoyé Jésus à la croix. Faut jamais l'oublier. Nos péchés ont envoyé Jésus à la croix. Nos iniquités ont envoyé Jésus à la croix. Nos transgressions ont envoyé Jésus à la croix. Et tu peux dire ce soir qu'il est mort pour toi et qu'il est mort pour chacun d'entre nous. Donc cette déclaration est la suivante. L'Éternel passa devant lui, c'est-à-dire Moïse, et cria. Il cria. L'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité. Voilà déjà la déclaration de Dieu à son égard. Il est miséricordieux. Il fait grâce. Il est lent à la colère. Il est grand en bonté et en vérité. Et il va déclarer, gardant la bonté envers des milliers de générations, c'est-à-dire que Dieu garde sa bonté envers des milliers de générations pour ceux qui l'aiment, ce que Dieu aime et ce que, et les hommes qui aiment Dieu, n'est-ce pas? C'est la réciprocité dans un amour. Dieu nous aime et nous aimons Dieu. Et nous n'aimons pas Dieu parce que notre amour humain l'a aimé, mais nous aimons Dieu parce que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit son amour. En moi, il n'y a pas de vrai amour, mon amour humain est tout tordu. Mais dans l'amour de l'Esprit-Saint, alors oui, il y a un grand amour dans nos cœurs pour le Seigneur. Et c'est la grande différence. Donc, qui garde la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité. Et c'est là que nous devons nous arrêter. Je suis persuadé que si je vous posais des questions concernant l'iniquité, vous ne saurez quoi me répondre. Et les mots sont d'un, les poids des mots sont tellement profonds dans le texte. Et l'iniquité en hébreu, le mot avon en hébreu veut dire perversité, veut dire dépravation, veut dire bien sûr iniquité, mais aussi veut dire culpabilité. Car l'iniquité entraîne en nous la culpabilité. Or, nous savons que dans la nouvelle alliance, il y a deux choses qui demeurent pas pour ceux qui se sont donnés au Seigneur. Deux choses essentielles qui ne sont plus dans le cœur de l'homme, tout au moins si nous croyons que nous avons fait une vraie conversion avec le Seigneur. Il y a deux choses qui ne sont plus dans le cœur du chrétien, pardon, pas chrétien, laissons tomber ce terme, je parle d'enfant de Dieu. Deux choses qui ne demeurent pas dans les enfants de Dieu, c'est la condamnation et la culpabilité. L'Écriture nous déclare qu'il n'y a plus de condamnation qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 1, vous connaissez ce texte, archi connu, mais je le répète, il n'y a plus aucune condamnation, Romains 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le texte Receptus, le texte ancien, rajoute, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est une nette différence. On peut être chrétien et marcher dans la chair. Qui sont les vrais enfants de Dieu? Que déclare l'Écriture concernant les vrais enfants de Dieu? Les vrais enfants de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pas seulement avoir reçu la vie. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent la vie et qui restent toute leur vie dans une chaise paralysée. C'est pas seulement avoir reçu la vie, mais marcher aussi par le Saint-Esprit. Vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit, et surtout être conduit dans cette marche par le Saint-Esprit. Vous comprenez ces choses? Je n'ai pas reçu l'Esprit de Dieu pour vivoter, pour avoir simplement reçu cette vie. Mais cette vie en moi me donne la dynamique de marcher dans les voies de Dieu et être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, l'iniquité, C'est une perversité, c'est une dépravation, c'est une culpabilité, c'est un châtiment de l'iniquité, c'est la conséquence de l'iniquité ou son châtiment, c'est ce que cela veut dire. Mais qu'est-ce que l'iniquité en réalité? Si on sait que c'est une dépravation, si on sait que c'est une perversité, mais qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Alors nous avons une belle déclaration de l'apôtre Jean. Et nous allons comprendre la différence qu'il y a entre le péché et l'iniquité. Nous allons aller dans la première de Jean. Il faut que nous comprenions bien les choses que Dieu nous dit. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean 3, 4. Qui veut le lire à haute et intelligible voix? 1 Jean 3, 4. Ah, le péché et l'iniquité. Mais quelle différence y a-t-il entre le péché et l'iniquité? Quiconque pratique le péché, c'est la pratique du péché qui engendre en nous l'iniquité. Le péché, le même péché constamment renouvelé, va nous faire entrer dans une iniquité, dans une injustice vis-à-vis de Dieu. La pratique du péché. Jean, à qui s'adresse-t-il là? Au monde? Non, non. Il s'adresse à des enfants de Dieu. Il leur dit, quiconque pratique le péché, c'est l'iniquité, et l'iniquité, c'est le péché. Ça veut dire que le péché, totalement répété, dans un même sens, dans un même péché, que tu pratiques constamment, constamment, devient une iniquité. Et pour cela, il n'y a pas seulement besoin d'une confession des péchés, mais l'iniquité demande une purification. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'iniquité a besoin du sang de Jésus pour être purifiée. Parce que l'iniquité laisse en nous des traces. Parce qu'un péché sans cesse répété, c'est comme un lien sur nos vies dont on ne peut pas se défaire. Et il y a tellement de liens dans nos vies. Des choses que dans lesquelles nous n'avons pas encore été vraiment libérés. Des choses pour lesquelles Dieu doit encore agir. Parce que tôt ou tard, frères et sœurs, il faut que nous fassions tomber les masques. Les masques de respectabilité que nous avons, alors que nous avons caché la clé d'une vraie libération, c'est la confession des péchés. Pourquoi devons-nous confesser les péchés? Parce que d'abord Dieu, tu vas pas, il y en a qui me disent, j'ai confessé mes péchés à Dieu, mais je dis à ces personnes, mais vous rigolez, est-ce que Dieu ne sait pas que vous avez péché? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu qui ne sache déjà? Mais Dieu a laissé l'autorité à son église sur la terre pour pouvoir remettre les péchés, vrai ou pas? Le soir de la résurrection, quand Jésus a soufflé sur les disciples l'Esprit Saint, c'est dans Jean 20. Il va souffler le Saint-Esprit en eux. Il va dire ceci. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Donc l'Église a, de la part de Dieu, ce pouvoir de pardonner les péchés. Confessez-vous les péchés les uns aux autres. Je te dis pas, va dans un confessionnat, confesse ton péché au prêtre qui va te dire fais deux douzaines de chapelets et ça va passer comme ça. Seul le sang de Jésus a la capacité de nous purifier de l'iniquité. Ce n'est pas les rosaires que tu feras, ce n'est pas les prières que tu feras. Seul le sang de Jésus a la capacité de purifier nos iniquités. Alors Dieu dit, il dit ceci, qu'il ne tient nullement pour coupable celui qui est innocent. Nous allons le voir dans un autre texte. Il ne tient nullement pour coupable celui qui en est coupable. Il ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent. Pour innocent. Et un autre texte dans Nombre 14-18 va nous dire ceci. Nombre 14-18 va nous dire ceci. L'Éternel est lent à la colère et grand en bonté, pardonnant l'iniquité et la transgression, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent. Et voilà ce que le Seigneur va dire. Qui visite, qui passe en revue, qui dénombre, qui rassemble le nombre de nos péchés, l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et la quatrième génération. Frères et sœurs, avant que nous venions au Seigneur, nous avons eu et nous avons hérité de la part de Dieu, des péchés de nos pères. Je prends un exemple qui est simple, un exemple que le monde dit. Hein. Oh, le grand-père c'était un coureur de jupons. Et le petit-fils, c'est la même chose que le grand-père. Qu'est-ce qui se fait que le petit-fils, il court les jupons comme le grand-père? C'est quelque chose qui s'est transmis. Qu'est-ce qui a pu se transmettre? Ben, des problèmes d'ordre sexuel. Il court les jupons. Et pourquoi tu cours les jupons d'après toi? Pour trousser les jupons. C'est vrai ou pas? Donc, Dieu dit qu'il ne tient nullement pour innocent celui qui en est coupable, mais aussi qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération. Alors je vous pose une question ce soir. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament? C'est le même. Si Dieu a dit ça dans l'Ancien, c'est qu'il avait une bonne raison de le dire. Il dit qu'il tient nullement pour innocent celui qui est coupable. Alors, tant que tu caches tes péchés, Dieu te tient pour coupable. Pourquoi? Celui qui confesse, Proverbe 28 et verset 13, c'est un proverbe qui va toujours toucher mon cœur, celui-là. Celui qui confesse ses péchés, ce nom, celui qui transgresse les choses de Dieu, ne prospérera point. Mais celui qui les confesse, qui les avoue et qui les délaisse, obtiendra miséricorde de la part de Dieu. Donc, tant que notre péché agit dans nos vies, il n'y a pas de possibilité de prospérité spirituelle. Tant qu'un péché demeure dans nos vies, il est comme un blocage pour progresser avec les choses de Dieu. Vous comprenez cela? Vous voulez que je relise ce proverbe 28 qui est très très important, parce qu'il est repris dans le Nouveau Testament. Voilà ce que dit Proverbe 28. Celui qui cache, celui qui camoufle ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse, les abandonne, obtiendra miséricorde. Parce que le péché, c'est quelque chose qui est devant la face de Dieu. Et en voyant le péché, Dieu voit le grand prix qui doit être payé à cause de ce péché. Et quand tu es dans ta vie, que tu sais qu'il y a un péché et qui demeure en toi, qui te vient et qui te bloque dans ta vie, alors Dieu te résiste. Dieu te résiste. La prospérité spirituelle ne se fera point. Tu vas progresser, mais à un moment donné, tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle qui empêche que tu ailles plus loin. Or, l'obstacle dans nos vies qui nous empêche de prospérer avec le Seigneur, c'est ce pourquoi Jésus a été cloué à la croix, pour nos péchés et pour nos iniquités. Et le péché, c'est un mur de séparation entre Dieu et nous. C'est ce que dit Ésaïe, un mur qui nous sépare de Dieu. C'est vos péchés et vos iniquités qui ont fait qu'il y ait un mur de séparation entre Dieu et nous. Justement, Jésus est venu pour renverser ce mur d'inimitié. Mais pour cela, il faut venir dans les conditions que Dieu fixe pour que nos cœurs ne nous accusent plus. Donc, l'iniquité, c'est la pratique du péché. Vous savez ce que c'est le péché. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné au sujet du péché. Nous savons tous ce qu'est le péché, n'est-ce pas? Nous avons tous péché. Il n'y a pas, dit l'Écriture, un seul juste. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Christ réconcilié avec Dieu. Si tu passes par Christ. Mais il n'y a pas un seul pécheur. Par un seul homme, dit l'Écriture, Romain, va dire ceci. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et tous ont péché. Et c'est pas simplement tes péchés d'ordre sexuel, etc. Le gros péché, le gros péché, c'est notre désobéissance et notre rébellion contre Dieu. Combien de fois je me suis élevé au milieu de vous contre ces évangélisations qui font venir les gens devant, on va leur faire une petite prière, et puis ça y est, ils sont enfants de Dieu. Mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est archi faux. C'est un autre évangile. Regardez comme Baptiste, n'est-ce pas, il est entré dans son ministère, qu'il a commencé à prêcher le royaume de Dieu, et il a commencé à prêcher les choses, les gens étaient saisis de crainte dans leur cœur, ils venaient confesser publiquement leurs péchés. Nous amenons les gens à Christ, et ils n'ont jamais dévoilé leur vie, et ils continuent à suivre le Seigneur avec le poids de leur culpabilité sur leur vie, dans leur cœur, et l'ennemi se régale. Parce que le péché pratiqué dans une vie, c'est un droit légal à l'ennemi d'avoir un droit sur cette vie. Donc il pardonne l'iniquité, il pardonne le péché, mais aussi il pardonne la transgression. Et nous croyons que la transgression, c'est simplement la transgression de la loi, n'est-ce pas? Des 10 commandements. Mais le mot transgression en hébreu, pessa, c'est pas pessa la Pâque, hein, c'est à peu près le même mot. Mais ça veut dire transgression, rébellion, crime, péché, culpabilité de la transgression. Rébellion, crime. C'est pour ça que vous voyez dans l'Écriture, certains péchés vont être nommés dans l'Écriture. C'est un crime contre l'Éternel, c'est une abomination contre l'Éternel, c'est une extrême horreur devant l'Éternel. Vous, hein, par exemple, vous regardez le livre de Lévitique, dans les relations incestueuses, dans les familles, hein, Dieu trouve cela comme étant une extrême horreur. Dieu dit qu'il visite, il passe en revue.
Il dénombre l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération. Dieu a une grande mémoire.
Mais nous pouvons compter sur sa miséricorde. Nous pouvons compter sur sa grâce. Nous pouvons compter sur sa lenteur à la colère qui est le gage de notre salut. Parce que Dieu patiente avec nous. Parce qu'après avoir entendu la parole du Seigneur, on n'est plus innocent des choses. On est responsable des choses. Savez-vous que Jésus à la croix est mort pour les péchés volontaires et pour les péchés involontaires? L'œuvre de la croix est parfaite. Jésus a pourvu, n'est-ce pas, par le moyen de son sang, de nous dégager de toute culpabilité. Voyez-vous, frères et sœurs, quand on marche avec le Seigneur, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Je vais vous donner un exemple. Nous suivons le Seigneur, mais à un moment donné, la parole de Dieu vient nous éclairer. Si je suis vrai, si je veux marcher dans la vérité, et si ce que je vois dans l'Écriture, je l'ai pratiqué, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais confesser ce péché, je vais demander pardon à Dieu. Je prends par exemple, un exemple qui a affaire au couple. Quand vous voyez dans l'Écriture que Dieu voit comme une extrême horreur une relation sexuelle pendant les périodes de règles d'une femme, il dit que ça c'est une abomination devant Dieu. Et quand nous l'avons pratiqué, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La parole de Dieu vient nous frapper en pleine lumière, en nous disant, mais ce que tu as fait là, c'était pas bon envers Dieu. Qu'est-ce que tu fais, mon frère et ma sœur? Si tu as envie de marcher avec le Seigneur et que tu as l'amour, la vérité dans ton cœur, tu vas confesser ce péché. Tu vas prendre deux ou trois frères autour de toi et tu vas leur dire, voilà, moi j'ai fait ça, priez pour moi. Et c'est comme ça tout au long de l'Écriture. L'Écriture, elle vient nous percuter en pleine face. Elle vient percuter nos cœurs. On se met un masque de respectabilité, on chante, on loue, on lève les mains, etc. Oh, je suis d'accord avec vous, ce sont peut-être des démonstrations, mais la réalité c'est quoi? C'est que ton cœur soit dégagé devant Dieu de toute culpabilité. Alors donc Dieu ne tient nullement pour innocent celui qui en est coupable, il visite ces choses. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces péchés d'iniquité, etc., etc., qu'on trouve dans l'Écriture? Écoutez, regardez, regardez, ça c'est que pour le péché. Et c'est que ça tient une place importante dans le plan de la rédemption. On peut pas passer à la légère sur le péché. Mais c'est parce que Jésus est mort à la croix pour ça. Pour mon péché, pour mes iniquités, il a offert sa vie pour moi, son sang a coulé pour moi, pour me purifier, pour me laver. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Vous savez, l'iniquité, c'est le péché pratiqué, c'est comme, vous savez, les limaces qui passent sur un parterre en ciment et une limace passe après l'autre. Et si vous savez ce qui se passe, c'est que une limace qui passe après l'autre, il va rester une trace de bave sur le ciment, elle va sécher. Ensuite, pour quitter cette trace de bave de limace, il faut que tu prennes la pierre ponce pour essayer de la quitter. Ainsi, l'iniquité laisse des traces dans nos cœurs. Seul le sang de Jésus a la capacité de quitter ces traces en nous. Seul le sang de Jésus. Alors voilà, on va commencer à parler dans l'Écriture ce qui donne des droits à l'ennemi de venir tenir nos vies et ce pourquoi nous avons besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre pour être déliés de certaines choses dans nos vies. Je vais parler d'abord d'un péché qui est dans l'Écriture et qui va toucher directement au royaume, qui veut toucher directement au royaume de Dieu, c'est la sorcellerie. C'est toutes ces choses que Satan fait dans les ténèbres pour pouvoir amener des hommes, des femmes à pouvoir recevoir des révélations en dehors du royaume de Dieu. Exode chapitre 7 verset 11. Vous vous rappelez les problèmes que Moïse a eu avec les devins de Pharaon? Mais qui étaient ces hommes? Qui étaient ces hommes? Exode 7, verset 11. Voyez-vous, le monde entier, je vous le dis, croyez-le, le monde entier gît sous la puissance du prince de ce monde. Le monde entier, beaucoup de gens sont liés par Satan et ses démons. Et pas seulement dans le monde, mais dans l'église du Seigneur aussi. Dans ce passage de l'Écriture, nous allons voir Moïse être confronté avec le royaume des ténèbres. Voyez-vous, Pharaon, qui était une civilisation, et comment se fait-il que les voyages touristiques en Égypte, ils ont autant de succès, d'après vous? C'est un pays à mystère. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est totalement dans l'occulte. Nous allons le voir.
en entretien avec les pyramides, n'est-ce pas, tout ce suspense, ce mystère, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui sont voulues de Satan. Regardez bien, le Pharaon, verset 11, appela aussi les sages et les magiciens. Nous, on a le mot magicien, mais le mot hébreu, kassaf, en hébreu, veut dire pratiquer la sorcellerie. Donc ces magiciens, c'était des sorciers. Pratiquer la sorcellerie ou la magie, les enchantements, les sortilèges. On peut traduire ici que ces fameux magiciens, c'était des sorciers. Ils avaient Pharaon sous la puissance de Satan, par l'intermédiaire des magiciens, des sorciers qui étaient en Égypte. Et Satan, il va se trouver confronté d'une manière directe avec Dieu. Moi, il y a quelque chose qui m'avait assez frappé, où Dieu va dire à Aaron, tu seras à un moment donné à la place de Dieu. Je te fais Dieu pour Pharaon. Vous vous rendez compte? C'est qu'il va avoir une confrontation de puissance entre le pouvoir des ténèbres et le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Moïse et Aaron trouvent devant eux? Des sorciers, des gens initiés à la sorcellerie, des gens initiés au secret des puissances des ténèbres. Frères et sœurs, tout à l'heure, pour ceux qui sont là, je savais pas qu'il y aurait autant de monde ce soir. Je vous ai tiré des exemplaires de certaines choses que je vais vous donner. Pardonnez-moi si j'en donne pas à tout le monde, mais si vous en voulez, vous me le demandez, je vous en donnerai. Vous allez voir jusqu'où ça va. Là il y a des choses totalement incroyables, incroyables. Donc nous avons vu que il y avait des magiciens, hein, et il y avait aussi des devins. Les devins, eux, c'est en hébreu chartom. Un devin, c'est plutôt quelqu'un qui consulte les astres, l'astrologie. Alors, si vous regardez votre horoscope tous les matins, dites-vous, vous êtes lié par l'ennemi. Alors, l'imbécilité de l'astrologie et l'imbécilité de ces choses, c'est que si toi, tu es du signe de la Vierge et que tu lis l'horoscope, tu vas le prendre pour toi. Alors que cet horoscope, il est pour tous ceux qui sont nés sous le signe de la Vierge. En réalité, il y en aura peut-être un qui tombera dessus, mais il y en aura 90 000 qui ne verront pas se réaliser ce qui a été écrit là. Mais on y met sa foi, et c'est le fait d'y mettre sa foi qui nous lie aux prédictions. Savez-vous qu'il est impossible en France, dans les journaux de grande diffusion, il est impossible en France de ne pas mettre l'horoscope dans un journal de grande diffusion, sinon il n'a pas de succès. Donc Le Monde, tous ces grands journaux, vous verrez dedans, il y a les signes du zodiaque. On va te prédire ta vie. Aujourd'hui, je te prédis, tu es de la Vierge, tu vas tomber sur la tête. Tu as remarqué dedans, quand tu regardes ces choses-là, tu t'aperçois comment les gens sont manipulés au travers de ces choses-là. Et ça conditionne leur vie. Ça conditionne. Si par exemple tu dis, aujourd'hui tu dis, il va m'arriver un grand malheur, si tu rentres ça dans ton esprit, c'est sûr que la chose elle va t'arriver. Les magiciens, mais vous verrez, frères et sœurs, dans ce document, même les mathématiciens à l'origine, c'était occulte. Vous allez voir, vous allez lire là-dedans. Vous allez être hautement édifiés. Donc, ils firent ainsi, ces devins, ces magiciens, ils firent ainsi par leur enchantement, par leur fascination, par les secrets qu'ils détiennent. Et savez-vous que la sorcellerie et tout ce qui est occulte, c'est une initiation initiatique, c'est fait en secret. Jésus a dit toutes les choses à la lumière. Eux, c'est tout dans les ténèbres. On t'initie aux choses de la sorcellerie et ça devient un secret. On te lie par le secret en te disant, si tu dis ça à quelqu'un d'autre, la malédiction tombe sur toi. Et ils tiennent les gens comme ça. Je vous dis, frères et sœurs, il n'y a rien d'innocent. Tous nos actes ont une portée. Tous nos actes ont une portée. Il n'y a rien d'innocent. Donc les magiciens, c'est-à-dire les sorciers, et les devins, c'est-à-dire les astrologues, étaient dans la cour de Pharaon et conseillaient Monsieur Pharaon. Pharaon est une figure du trône de Satan sur l'Égypte. Quand, en tant que responsable d'un pays, tu te lies aux puissances occultes, tu fais partie du trône de Satan. Satan ne partage pas son trône, mais tu fais partie de la puissance de Satan. Vous savez, l'histoire de notre vieille terre va nous montrer tous les gens qui ont adhéré aux choses occultes. Et j'ai vu un film qui s'appelle La Chute, un film allemand. Je viens de le voir, il s'appelle La Chute, c'est les derniers jours d'Hitler. Eva Braun, sa femme, elle était en plein dans l'occulte.
Lui ne pouvait pas prendre de décision s'il n'avait pas des interprétations, des signes. Et Claire, qui dans le film disait, mais mon seul but, c'est de dominer le monde. De dominer le monde. Alors, ces mêmes mots, vous les retrouvez, n'est-ce pas, dans la version de la Septante, mais on va pas y être dedans, hein. La version de la Septante, ça sera pour un autre moment. Et donc, Exode 7, 22, un peu plus bas, il est dit que les devins, c'est-à-dire les astrologues d'Égypte, firent de même avec leur enchantement. Et il est dit que le cœur de Pharaon s'endurcit. Ceux qui pratiquent les choses occultes, ils ont le cœur qui s'endurcit. Je vous le dis, ceux qui ont pratiqué les choses occultes, c'est un grand combat dans leur vie pour venir au Seigneur. Il faut la puissance du Seigneur Jésus pour les libérer. Il faut engager un combat avec l'âme de cette personne pour que la personne soit libérée. Car les démons, les esprits qui tiennent ces personnes sont puissants. Je ne vous parlerai pas de notre chère France, n'est-ce pas, où la région lyonnaise est réputée pour sa sorcellerie. Je ne parle pas de la Bretagne. Les Bretons là-bas en haut, le sud-ouest avec les Cathares, et dans le sud-est, et dans le nord, et le monde gît sous la puissance de Satan. Il y a certaines régions de France qui sont, n'est-ce pas, dominées par des esprits dominateurs de l'ennemi qui ont distillé dans ces régions certaines pratiques. Alors vous trouverez dans une certaine région de la sorcellerie, du spiritisme. Dans d'autres régions, vous trouverez des messes noires, vous trouverez des engagements de sacrifices humains. Vous avez compris que quand il y a des sacrifices humains, c'est que le sang coule. Le sang, il a une puissance en lui. Le sang de Jésus, n'est-ce pas, il a une puissance en lui. Le sang de Jésus, il a une puissance de vie en lui. Le sang pur et sans tache de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus bien plus précieux que l'or périssable. Alors que le sang que l'ennemi fait verser, c'est du sang impur. Il y a un passage qui va résumer un peu tout ces pratiques. Vous allez le trouver dans Deutéronome 18, verset 10. Deutéronome 18, verset 10 jusqu'à 13. Donc quand Israël arrive à la frontière de Canaan, qu'elle va rentrer en Canaan, Dieu va lui dire qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, c'était simplement des sacrifices d'enfants au dieu Moloch. Ils jetaient les enfants vivants dans le dieu Moloch qui était une fournaise ardente. Et on satisfaisait aux besoins de l'idole en faisant des sacrifices humains. Et quand Israël rentre en Canaan, Dieu dit, tu ne feras pas comme ces peuples-là. Pourquoi Dieu... Et voilà, posons-nous la vraie question. Pourquoi Dieu va faire rentrer Israël en Canaan? Bien sûr, il avait promis Abraham à ses descendants, mais il y avait une raison autre. Vous la connaissez, cette raison? Dieu va dire, en Deutéronome 7, 25, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu, tu ne désireras pas l'argent ou l'or qui sont dessus, et tu ne les prendras pas pour toi, de peur que par là tu ne sois pris en piège. Car c'est une abomination pour l'Éternel ton Dieu, afin que tu n'introduises pas l'abomination dans ta maison, et que tu ne sois pas anathème comme elle, tu l'auras en extrême horreur et en extrême abomination, car c'est une anathème. Avec mon épouse, lors de notre service pour le Seigneur depuis de longues années, on a vu des personnes... Quand nous sommes venus pour prier pour elle, certaines personnes sortaient, certaines avaient plein de choses d'Égypte, et une certaine personne avait un bracelet en forme de serpent avec des pierres précieuses. C'était un objet d'art magnifique. On a dit à cette personne, non, ça c'est le symbole de la puissance satanique égyptienne, tu dois t'en séparer. Soit tu le jettes dans la mer... Tu prends n'importe quelle solution pour t'en séparer. Vous savez ce qu'a fait la personne? Au lieu de se séparer de ce serpent, elle a fondu l'or. Elle a gardé constamment chez elle. Pourtant, que dit l'écriture là? Vous l'avez bien vu. Vous ne désirez pas l'or et l'argent de leurs idoles. Vous les introduirez pas dans vos maisons, car c'est une anathème, une extrême horreur. À cause de cette chose qui était dans la maison, la personne ne pouvait pas être libérée. Et il a fallu la révélation du Seigneur pour que nous saisissions pourquoi il y avait un obstacle. Tout simplement parce que cette personne avait cru qu'en fondant l'idole d'argent qui était un serpent, elle aurait pu récupérer son or pour peut-être en profiter par la suite. Mais Dieu ne voulait pas ça. Le symbolisme qui s'attache au serpent est quelque chose de très très fort. Le serpent ancien, antique, fuyard.
Le serpent, on le voit dans l'écriture partout. Le Léviathan, toutes ces choses qu'il y a dans l'écriture, ça concerne Satan. Et nous ne pouvons pas, nous, une fois que nous arrivons au Seigneur, de continuer à vivre avec les choses qui étaient des signes du royaume des ténèbres. Nous devons nous en séparer. Donc, nous revenons à la raison pour laquelle Dieu va dire à Israël, la véritable raison pour qu'Israël puisse rentrer en Canaan, en Deutéronome 9, c'est très important ce que Dieu va dire. À partir du verset 1. Écoute Israël, tu passes aujourd'hui le Jourdain pour entrer, pour posséder des nations plus grandes et plus fortes que toi, des villes grandes et murées jusqu'aux cieux, un peuple grand et de haute taille, les fils des Anakim que tu connais et dont tu as entendu dire qui peut tenir devant les fils d'Anakim. Et sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui passe devant toi, un feu consumant, c'est lui qui les détruira, c'est lui qui les abattra devant toi, et toi tu les déposséderas, et tu les feras périr subitement, comme l'Éternel ton Dieu te l'a dit. Et voilà ce que Dieu va rajouter. Ne parle pas en ton cœur, quand l'Éternel ton Dieu les aura chassés de devant toi, disant, c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer pour posséder ce pays. Et voilà la réponse de Dieu. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les dépossède devant toi. Ce n'est point à cause de ta justice, Israël. Ce n'est pas à cause de la droiture de ton cœur que tu entres pour posséder leur pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations-là. Je peux dire ce soir que Israël a été l'instrument de la justice de Dieu pour le pays de Canaan. Ces peuples-là trafiquaient avec les puissances occultes. C'était un pays de ténèbres, Canaan. Et il dit à Israël, non, ne crois pas que c'est à cause de ta justice, parce que tu es meilleur que les autres peuples, ne crois pas parce que j'ai fait alliance avec toi, mais c'est à cause, je te donne ce pays, et tu vas les déposséder à cause de la méchanceté de leur cœur. C'est pour ça que Dieu dit, vous brûlerez leurs ashères, vous détruirez, vous laisserez aucun symbole qui soit en rapport avec ces pays, avec ces peuplades-là. Alors c'est comme quand vous allez par exemple en Italie, hein, et que vous rentrez dans une maison, vous montez un escalier, une petite niche avec une vierge, vous montez plus haut et encore une autre petite niche avec une vierge avec des bougies, vous allez en voiture au croisé de chemin, allez un petit sanctuaire où il y a une vierge avec des bougies, et vous allez encore une vierge avec des bougies, et où vous allez, il y a une vierge. Moi je veux bien que Marie, elle ait été vierge à la conception du Seigneur, aucun problème pour moi. Mais qu'ensuite elle était vierge, qu'elle soit restée vierge, non. Elle a eu des enfants. Elle a eu des enfants. Jude, Jacques, le frère du Seigneur. Et d'autres encore. Donc, quand nous voyons ce que l'idolâtrie a engendré dans les pays qui ont pratiqué l'idolâtrie, comment Satan s'est servi de ces choses idolâtres, comment Satan s'est servi pour amener à assujettir les peuples à l'adoration d'une idole. Et le prophète Isaïe va dire, mais elles ont des yeux, elles ne voient pas, elles ont des oreilles, elles n'entendent pas, elles peuvent pas marcher, c'est des morceaux de bois. C'est pas à cause de la bonté d'Israël. D'Israël, c'est un mystère, l'élection d'Israël restera un mystère pour nous. Nous le saurons quand nous serons dans les cieux. Mais Dieu a choisi ce peuple, que la volonté de Dieu soit faite. Mais c'est pas pour autant qu'Israël était une meilleure nation que les autres. Hein. Pas du tout même. Combien de fois Dieu les a déportés? Combien de fois Dieu a laissé les ennemis d'Israël venir les dominer? Combien de fois le temple a été détruit? Combien de fois? Alors que les anciens de la maison d'Israël, ils se prosternaient dans le lieu saint devant toutes sortes d'idoles. Regardez Ézéchiel. Jérémie, Ézéchiel, fais un trou dans le mur, regarde ce que font les anciens d'Israël. Et dans le lieu saint, ils se prosternaient devant les idoles. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui pratique le métier. Personne qui exerce la divination. Car le métier de divination, c'est un métier de mensonge. Et c'est dans ce sens-là qu'un prophète, il peut devenir un devin en donnant des fausses prophéties. Eh oui. Attention aux prophéties que vous recevez. Mais bien aimé, éprouvez les prophéties pour voir si elles sont de Dieu. Retenez ce qui est bon, puis mettez de côté tout ce que la chair a rajouté. Si t'en sois peu dans la prophétie, il y a une parole de Dieu dedans. Mais tout le reste, tu jettes. À la poubelle. Alors, ce fameux Kassam, pratiquer la divination. Frères et sœurs, je vais vous donner un document, donc malheureusement je n'en ai pas pour tout le monde. Donc je vais en donner un par famille. Juste quelque chose pour vous montrer que ce que c'est que le mot Kassam. On va lire les premiers paragraphes. Kassim, il y a un mot en premier, Kassim. L'étonnante relation entre Kassim, Kassem et Kassam en hébreu. Dans la haute antiquité, tant dans l'ancienne Perse qu'à Babylone ou dans l'Égypte, des pharaons, les sciences divinatoires étaient un domaine réservé aux prêtres. La haute science demeurait secrète et anonyme. Le nom des grands initiés n'était pas connu du public, et pour cause. Science savante entre toutes, l'astrologie se confondait avec l'astronomie et les mathématiques. Alors, astronomie, astrologie et mathématiques, ça se confondait. Mais il existait à côté de l'astrologie savante des traditions populaires plus frustes dont les devins exerçaient l'art de prédire de mille façons, des plus simplistes aux plus élaborées. Ainsi, regardez bien, dans la Grèce antique ou en Étrurie, cohabitaient des savants astrologues, philosophes et d'incultes d'aphéphages ou coprophages dont les prédictions reposaient sur les transes hallucinatoires induites par l'absorption de feuilles de laurier ou de défécation humaine. Par les excréments humains. Alors maintenant, je sais que si vous buvez des sirops de feuilles de laurier, attention, vous allez peut-être dériver. Hein. Je savais pas que le laurier, il pouvait faire entrer en transe hallucinatoire. Kassim, connu aussi sous le nom de El Kassim, Bel Kassim ou Kassem, vers 1793 avant Jésus-Christ. Voyez le mot hébreu Kassam, pratiquer, exercer la divination, deviner, et Kassem, divination de mensonges sur Cédric Cécière à fausse prophétie, l'étrange similitude qui existe entre le mot hébreu et le nom de Kassim, véritable maître dans l'ombre du royaume de Babylone. Et alors, naturellement, nous sommes tous fiers, vous et moi, d'entendre que on a retrouvé le code d'Hammurabi. Dans l'Antiquité ancienne, le code d'Hammurabi, vous savez pas ce que c'est? C'est un code de loi civile, etc., qui date depuis 2000 ou 3000 ans avant Jésus-Christ. Et vous savez, et par qui il a été élaboré ce code? Par Kassim. Regardez ce qu'il est dit de lui. Grand prêtre du dieu Shamash. Shemesh, Shamash en hébreu veut dire soleil. Grand prêtre du dieu soleil, fils de Shin et frère d'Ishtar, le dieu soleil des Mésopotamiens. Et nos braves petits dessins animés, vous rappelez petits dessins animés où on voyait Babar? Oui, c'est pas innocent, vous savez, hein. Babar. Vous vous rappelez de Babar? Le barbare des qui? Regardez de qui il sort barbare. Le barbare des Sumériens. Ce devin légendaire fut l'astrologue et le conseiller occulte du roi d'Hammurabi, roi de Babylone, à qui on doit le célèbre code de loi qui porte son nom. Je vous dis, que le monde entier, jusqu'à aujourd'hui, gît sous la puissance du prince de ce monde. Que ça fait très longtemps que Satan, il a mis sa main sur cette terre. Depuis la création, et je suppose même avant la création que Dieu a faite sur cette création-là, celle antérieure. Si le monde était tohu-bohu, avant que Dieu crée cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, c'est qu'il y avait eu quelque chose auparavant, n'est-ce pas? Tohu-bohu, informe, capharnaüm, désordonné. Alors on dit, d'où ça vient ces dinosaures, comme ils sont laids, ces brontosaures, comme ils sont laids. Et nos petits-enfants, on leur offre des petits dinosaures, on leur offre, mais c'est très joli, Jurassic Park. Regardez-le, c'est mignon, ces petites bestioles de 4 mètres de haut qui sont hideuses. Shamash, juge suprême, c'est-à-dire le soleil, juge suprême en vertu de sa position dans le cosmos qui lui permettait de voir tout ce qui se passait dans le ciel et sur la terre, était la divinité qui inspirait auprès de devins la connaissance de l'avenir et leur permettrait d'en relever le contenu aux hommes. Alors vous savez, frères et sœurs, il y a ici des choses qui sont tout à fait extraordinaires, n'est-ce pas? Et leur permettait de leur révéler le contenu aux hommes, par exemple, par l'examen des entrailles d'un mouton. Et la comparaison de la position des astres au jour de la naissance. Mais dites, vous savez que ça existe dans l'écriture là? Ézéchiel dit, se tient à la croisée des chemins et examine le foie. Qu'est-ce que vous croyez que c'est ça? C'est la pure sorcellerie en examinant le foie d'un animal pour avoir des prédictions dessus. C'est dans Ézéchiel, vous le trouverez. Vous croyez que la Bible ne nous éclaire pas? Ou alors on est vraiment des nullards, on n'a rien compris à l'écriture. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont chercher leurs prédictions dans ces telles choses. Je suppose qu'en Afrique, on le fait ça, non? On regarde pas dans les entrailles des animaux, les sorciers? Dis-moi mon frère, ils le font pas là-bas? Mais bien sûr que si. Et bien sûr que si.
Alors, bien sûr, vous lirez le reste. Je ne vais pas vous le lire maintenant, parce que si je vous l'ai donné, c'est pour que vous le lisiez. Parce que c'est assez intéressant de savoir que ce Kassim, Kassem, c'est le même mot qu'il y avait en hébreu. Donc, l'hébreu dénonce ça, comme sorcellerie, etc. Mais l'initiateur de ça, c'est ce gaillard-là. Ce Kassam, c'est Kassim, de Babylone. Babylone, dont il est dit dans l'Apocalypse que c'est un repaire de démons et d'esprits impurs. Babylone qui fait le trafic des âmes. Comment on trafique des âmes? Mais on n'est pas à la négritude. Non, le trafic des âmes par le moyen spirituel. On trafique les âmes en les assujettissant au pouvoir satanique par la sorcellerie, par le culte, par le spiritisme, etc., etc. Allez voir les guérisseurs, vous allez voir comment vous allez ressortir de là. Oh, mais la science normale ne peut rien faire. On va voir les guérisseurs, tu vas voir les guérisseurs. Tu rentres chez le guérisseur, oui, tu vas ressortir plus malade que tu es rentré. Il va te guérir d'un côté, mais de l'autre côté, il va t'en mettre plein la tête. Et en plus, il va t'attirer pour te prendre ton argent. Alors qu'il se trouve pas chez toi, la personne qui exerce le métier Kassam, de divination, comme le fameux Kassem, c'est-à-dire de devin, donc divination de mensonge, sorcellerie, prophétie fausse, oracle, faux prophète, d'astrologue. Alors là, l'astrologie, c'est très intéressant. Parce qu'on croit que l'astrologie, c'est simplement de regarder les planètes. Mais non, il y avait des prédictions qui se faisaient par la consistance des nuages. L'aéromancie. On voyait les nuages de telle et telle position, on disait, tiens, un présage va arriver là. Il devinait dans les choses du céleste. Il est dit qu'il faisait apparaître ou il produisait ou il apportait par les nuages, l'aéromancie, l'interprétation dans les formes des nuages, l'interprétation de la fumée, appelée capnomancie. La fumée qui s'élève, elle a telle ou telle forme, ils te prédisent quelque chose. C'est de la sorcellerie, c'est de la divination. Mais regardez, hein, écoutez, la superstition religieuse idolâtre, nous, hein, dans nos années à nous, hein, il n'y avait-il pas, hein, dans la foi chrétienne horrible, le jour des morts, où dans les maisons, les gens mettaient la photo du mort, ils allumaient des bougies, et ils mettaient de l'huile dans un plat. Pratiquer la voyance, conjurer, observer les temps, pratiquer le spiritisme ou la magie, ou la divination, observer les signes, apprendre par expérience, observer attentivement, dire la bonne aventure. Ah, les petits gitans. Tu veux pas que je lise les lignes de la main? C'est occulte. Oh, mais toi, tu vas vivre longtemps. C'est occulte. C'est occulte. Les diseurs de bonne aventure, ceux qui lisent, on appelle ça les chiromanciens. De Kaïra, la main, et la voyance dans la main. Oh, si tu as une ligne très longue jusque-là, tu vas vivre jusqu'au millénium. Si ça s'arrête là, ben, tu vas vivre peu, hein. Quelle foutaise. L'homme ne peut pas rajouter une coudée de sa vie. C'est Dieu qui tient tout entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. Tu ne peux pas rajouter quoi que ce soit par le moyen d'une prédiction. Et les prédictions, frères et sœurs, elles sont à double sens. Il y a des paroles que nous saisissons et que nous nous approprions qui deviennent pour nous des choses malheureuses. Moi, je vous ai fait ce témoignage dans l'église. Je vous le répète. Que j'ai eu un père qui est mort jeune à 57 ans d'un infarctus du myocarde. Et à l'époque, je n'étais pas encore dans la conversion. Mais cette pensée que mon père était mort jeune à 57 ans, je l'ai toujours entretenue en moi. Et quand est arrivé les 57 ans dans ma vie, j'ai dit attention. Ou ça passe ou ça craque. Mais le Seigneur avait décidé autrement. Et le Seigneur m'a libéré de cette chose-là. Donc les choses que nous pensons, et auxquels nous nous attachons, peuvent devenir réalité. Ah, je sais que c'est étonnant ce que je dis ce soir, mais non, c'est pas étonnant. C'est pas du tout étonnant, hein. Alors, personne qui exerce le métier d'enchanteur, lié donc, chabach en hébreu, ça veut dire lié par des charmes magiques, conjurer les esprits, charmer, enchanter un enchanteur. Vous savez que dans les pays arabes, les arabes qui font au serpent, ils les charment. C'est satanique. Est-ce que vous savez ça? Vous allez dire, c'est la musique qui... Mais quelle est cette musique qui tient le serpent sous le charme et qui ne te pique pas? Tu le sais, toi? Deux magiciens. Qu'il n'y ait pas de magicien. Kachaf. Kassaf veut dire exercer la sorcellerie ou la magie. Les enchantements, les sortilèges. Être magicien, être magicienne. D'enchanteur, lié par des charmes magiques. Personne qui consulte les esprits. Mon mari est décédé. Je vais aller consulter un médium pour voir qu'est-ce qu'il peut me dire aujourd'hui si ma vie va bien aller. Oh Gaston, si tu es là, tape trois coups. Et les trois coups sont tapés, hein. Là, c'est le démon qui vous répond directement. Hein. Gaston, qu'est-ce que tu me dis pour ma journée d'aujourd'hui? Est-ce que je passerai une bonne journée? Un coup c'est bon, deux coups c'est pas bon. Un médium, c'est quelqu'un qui va invoquer les esprits des morts pour vous mettre en relation avec la personne qui est morte. Que dit l'Écriture? Après la mort vient le jugement. Il n'y a plus de possibilité de quoi que ce soit. Il n'y a plus de possibilité de réincarnation. Et je rigolais. Je rigolais quand je vois des artistes de cinéma tellement adulés par le monde. Le fameux, comment il s'appelle, là, le scientologue, là. Mission Impossible, comment il s'appelle? Tom Cruise. Le fameux Tom Cruise. Il croit à la réincarnation. Alors, qu'est-ce que c'est que la réincarnation? Tu meurs, tu t'en vas dans le ciel, et tu reviens, tu t'es perfectionné en haut, et tu reviens en bas. Alors, je me rappelle d'un artiste de théâtre qui s'appelait Francis Poulain, qui était un rigolo, pas possible. Il croyait en la réincarnation. Il croyait qu'il allait se réincarner dans un chat. Quelle perfection. Miaou, miaou. Non mais, vous allez vous parfaire en haut, puis Dieu vous renvoie en bas, quelques siècles plus tard, et là tu reviens dans un chat, dans un âne, dans une vache, dans... Vous savez où est le plus grand repère de démons dans ce monde? C'est là-bas au Tibet. Et pourtant, on leur a donné au Dalai Lama le prix Nobel de la paix. Là-bas, les moines, ils font la lévitation transcendantale. Ils s'élèvent par la fosse mentale. Et il y a des artistes de cinéma qui pactisent avec ces choses-là. Je vous dis, le monde, il est fou. Car Satan a rendu le monde fou. Satan tient le monde sous son joug. Et il y a des gens qui, au cours de leur vie, sont allés consulter des devins, des guérisseurs, qui sont allés consulter et qui se sont fait lier par l'ennemi. Ça n'a pas l'air comme ça, mais l'ennemi, si tu lui mets le doigt dans l'engrenage, il va te prendre le doigt. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un entend frapper à la porte de son cœur, et Jésus dit, et qu'il ouvre la porte, donc que de ta propre volonté, tu ouvres la porte, n'est-ce pas, à l'entrée de Jésus dans ta vie, Jésus dit, je viendrai avec mon Père, j'aurai communion avec vous, je ferai ma demeure en vous. Mais Satan, ne mets pas le doigt dans l'engrenage, parce qu'il va pas te demander la permission de rentrer. Il va rentrer directement. Il va te lier. Il va commencer par un petit coup. Oh, mais c'est pas grave. J'ai encore ma liberté. Et puis deux petits coups, trois petits coups. Après, jusqu'à ce que tu sois complètement paralysé. Comme une araignée, vous savez. Elle tisse sa toile. Ainsi, Satan, il tisse sa toile. Par l'iniquité, par le péché pratiqué, par les choses. Vous savez que les choses non confessées, ce sont des choses qui nous bloquent une vie spirituelle épanouie. Il y a des gens qui portent, des chrétiens qui portent des secrets dans leur cœur. Énorme! Il faut vraiment la puissance du Saint-Esprit pour venir les convaincre de péché, pour qu'ils ouvrent leur bouche et disent « Mon père m'a violé à 7 ans, à 8 ans, et mon frère m'a violé, et mon autre frère m'a violé. Comment voulez-vous que cette chose soit gardée dans un cœur? Si tu la gardes, tu meurs. Tu vas avoir des problèmes de relation avec les hommes, avec ton mari, dans la relation avec ton mari, tu auras des problèmes. C'est des choses qui marquent l'individu au fond de leur cœur, au fond de leur vie. C'est des souffrances. C'est comme le père qui ne cesse de dire à son enfant, tu es un imbécile, tu en vaux rien, tu ne feras jamais rien dans ta vie. Et du matin au soir, il lui dit ça. Mais l'enfant, au bout d'un moment, il va dire, je suis bon à rien. Et je ne ferai jamais rien dans ma vie. Et il ne voit pas qu'il est en train de mettre une malédiction sur son enfant. Combien de personnes comme ça? Mais combien? Et quand tu viens à Jésus, ces choses te poursuivent. Il faut la puissance du Seigneur pour te libérer. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre à l'égard du péché. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits, celui qui invoque les morts, l'esprit des morts, le revenant, le nécromancien, celui qui devine dans la mort, le devin, l'esprit de Python. Hein, la pythonisse dans les actes des apôtres. Ou celui qui dit la bonne aventure, celui qui sait, celui qui prétend savoir l'avenir, celui qui a un esprit de divination, un diseur de bonne aventure. S'il se trouve parmi eux, Luc 20, 27, regardez bien ce que dit Lévitique 20, 27, pardon. Lévitique 20, 27 dit ceci. Lévitique chapitre 20, verset 27. S'il se trouve parmi eux, écoutez bien ce verset. S'il se trouve parmi eux un homme ou une femme, qu'il soit magicien ou devin, selon d'autres, un homme ou une femme en qui réside un esprit de magie, de nécromancie ou de divination, personne qui interroge les morts, s'il se trouve quelque chose dans ton peuple, une femme ou un homme comme ça, tu les lapideras, tu les feras sortir de mon peuple.
Vous ferez mourir la magicienne, dit l'Écriture. Vous ferez mourir la magicienne. Personne qui interroge, qui consulte, qui recherche, qui adresse une prière, qui demande du secours à un mort. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination. C'est-à-dire, il fait une chose dégoûtante, il fait une chose abominable. Mais pas seulement dans le sens naturel, mais aussi dans le sens rituel. C'est pour lui une nourriture impure que de se prostituer avec ces choses. Même cette abomination, il est dit par les mariages étrangers. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui dit, attention, hein, si vous vous mariez, que les deux soient dans la foi pour qu'ils marchent tous les deux d'un seul pas. Mais s'il y en a un qui claudique d'un pied, qui n'est pas dans la foi, il y aura de vrais problèmes. De vrais problèmes. Exode 22, 18. C'était. Regardez, si on devait faire ces choses aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'existeraient plus. Hein. Il y a, je ne sais pas, combien il y a de milliards d'euros faits en France par les parties occultes, par les magiciens, par les sorciers, etc. Des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les gens, ils sont dans une telle superstition. Exode 22, 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Si on devait, aujourd'hui, ne pas plus laisser vivre tous les gens qui pratiquent ces choses, la terre serait épurée d'un bon nombre de puissances de ténèbres, n'est-ce pas? Ça rigolait pas dans le peuple de Dieu. Dieu savait que ces choses pouvaient engendrer une rébellion dans le cœur du peuple de Dieu. Si un jour tu t'es fait lire les lignes de la main, si un jour tu as été consulté un guérisseur, va, confesse cette chose. Demande pardon au Seigneur. Et Jésus a dit, voilà, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il dira, ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux, et tout cela en rapport avec le péché. L'église a le pouvoir, l'autorité du Seigneur pour lier et délier les choses. Lier Satan qui agit sur une personne et délier la personne de son péché et de l'œuvre de Satan sur sa vie. Je vous l'ai dit souvent, Jésus n'est pas venu pour faire de l'esbrouf ni du cinéma, il est venu pour faire une confrontation de puissance avec le royaume des ténèbres. L'Esprit de l'Éternel est sur moi et moi loin, pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi pour libérer les captifs. Et délivrer les prisonniers. Mais c'est quoi? Des gens qui sont en prison? À Villeneuve-les-Maguelones? Non. Les captifs qui sont captifs spirituellement par Satan. Et qui sont prisonniers de l'ennemi. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Verset 13, va Dieu du var Israël, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Esprit, âme et corps comme une offrande de bonne odeur agréable au Seigneur. Entièrement, c'est pas une partie de ta vie qui est soumise à Dieu et l'autre partie qui est soumise à tes caprices de ta volonté, mais entièrement conduit par l'Esprit de Dieu. Toutes ces pratiques, je vous dis, il n'y a rien d'innocent. Toutes ces choses qui ont été faites, toutes ces choses à l'époque, tiens enceinte, viens. On va prendre le pendule, on va voir si c'est un garçon ou une fille. Le pendule est un art divinatoire. Et dans nos villes, dans nos campagnes, c'est bourré de ces choses-là. La France, elle est sous la coupole de Satan. Je vous conseille un livre, si vous pouvez le retrouver, c'est un livre d'Émile Dallière, il me semble, c'est Émile Dallière. Il s'appelle Le Dragon, et il va vous donner toutes les pratiques occultes sur la France et dans toutes les régions. Bien documenté ce livre. Il nous faut dévoiler les œuvres des ténèbres. Il nous faut dévoiler les œuvres des ténèbres dans nos propres vies. C'est nécessaire pour que nous soyons libres à l'égard de toutes choses. C'est nécessaire pour que l'ennemi n'ait pas de droit sur nous. C'est nécessaire afin que nos cœurs ne nous accusent pas, que nos consciences ne nous accusent pas. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Alors, je vais vous donner quelques références, mais c'est bourré de références, je ne vais pas toutes vous les donner. Mais par exemple, vous pourrez voir dans 2 Chroniques 33, versets 3 à 6, Manassé, le fils d'Ézéchias, Ézéchias qui a fait un réveil magnifique dans tout Israël, le roi Ézéchias, un homme selon le cœur de Dieu,
Il n'y a pas eu d'autre roi comme celui-ci dans lequel Israël a vécu un aussi grand réveil. Et pourtant son fils, ça va être le pire des rois. Il éleva des autels au Baal que son père avait renversé, il fit des idoles d'Astarté, il se prosternera devant toute l'armée des cieux et la servit, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils d'Immon, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, il s'adonnait à la magie, il établit des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir, il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Alors, vous avez compris. La conséquence d'un dirigeant du peuple qui entraîne tout son peuple à rentrer dans ces choses-là. Comment se fait-il que le panthéon des faux dieux ait une aussi grande vie? En tout, on parle toujours d'Isis et d'Osiris, n'est-ce pas, en Égypte, même aujourd'hui. Isis et Osiris. Vous saviez quel était le symbole du pharaon sur sa tête? C'était un serpent. Aujourd'hui, il n'y a plus de symboles comme ça sur les têtes. C'est caché. Et dans notre beau pays de France, on ne dit pas occultisme, on ne dit pas spiritisme, on emploie des mots scientifiques. On dit télékinésie. On dit des mots à redondance scientifique pour cacher tout ce qui est occulte. Pardon? Psychologie? Sophrologie et tous les gîtes de la création. Alors vous comprenez dans quel monde nous sommes. Et quand nous venons à Jésus, Jésus est venu pour nous purifier de toute iniquité. C'est la pratique de ces péchés qui font que nous avons été en séparation avec Dieu. Et quand nous venons à Jésus, c'est pas le fait de dire je viens à Jésus, ça y est, tu as toi, je suis là. Mais non. Je vais te dire, quand tu commences une vie nouvelle, c'est obligatoire que tu éponges le passé de ton ancienne vie. Parce que même si tu veux passer la frontière au Pertus et qu'il y a les douaniers, si tu veux passer la douane, ils vont t'arrêter, ils vont te dire, vous n'avez rien à déclarer. Mais si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, faut dire, je n'ai rien à déclarer. Jésus a tout payé pour moi. Amen. Vous comprenez ça? Un jour, il y a bien des années, ma grand-mère personnelle, je vous parle de ça il y a 40 ans ou 50 ans en arrière, on était allé voir sa famille en Espagne. Elle avait une sœur. Et on avait pris une grande bonbonne, mais d'eau. En cas, si on en avait soif ou mettre dans la voiture, si le radiateur chauffait. On est passé à la frontière. Halte. Ouvrez les portes. On a ouvert les portes, on a ouvert le portillon arrière. Ils ont regardé, ils ont vu la bouteille. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? De l'alcool? On a dit, non, goûtez, c'est de l'eau. Mais ils cherchaient à nous prendre en défaut. Ça veut dire que tu ne peux pas rentrer en France si dans ta bouteille, c'est de l'alcool. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu viens avec ton paquet de péchés dedans. Seul le sang de Jésus est capable de nous purifier. Seul le sang de Jésus a pouvoir de nous libérer de la puissance des ténèbres. Donc nous aurons à avoir les différentes formes de péchés qui peuvent produire dans nos vies des asservissements. Nous aurons à avoir des versets bibliques très parlants. On continuera lors du prochain enseignement. Mais si vous désirez avoir tous les versets bibliques qui concernent ces choses-là, je peux vous les donner, parce que j'ai pas tout donné, j'ai donné, ça en est plein dans l'écriture, quoi. Donc si c'est dans l'écriture, c'est bien pour que le Seigneur nous fasse comprendre quelque chose. Que ces pratiques-là sont des pratiques qui risquent de nous apporter des désagréments dans nos vies. Je parle de la sorcellerie, mais je parlerai de bien d'autres choses par la suite. N'est-ce pas? Ce que nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères. On en parlera aussi. Que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.